Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin. À l'opposé du petit poussé, que sa fragilité même caractérise, se trouve Héraclès, Hercule, demi-dieu à la force colossale, que l'on pourrait peut-être comparer au célèbre Thor que les amateurs de comics et de super-héros connaissent bien. Or, en rapprochant le conte du petit poussé et le mythe d'Héraclès, nous pouvons voir que leur quête, dans une certaine mesure, se rejoint. Pour en parler, je suis en compagnie du docteur Dominique Desmichel, médecin et psychanalyste. Docteur Dominique Desmichel, bonjour.
Bonjour Simon.
Alors, je laissais entendre que leur quête, la quête du petit poussé et celle d'Héraclès se rejoignaient, et elle se rejoint dans une certaine recherche du féminin, la recherche d'un équilibre entre masculin et féminin. Et dans l'émission précédente, vous nous disiez que justement Héraclès laisse à un moment donné tomber sa massue, symbole de la virilité, contre un arc pour chasser la biche. La biche, figure évidemment féminine.
Oui, tout à fait. On peut bien rappeler quand même que la grande finalité, la téléologie, on pourrait dire, de tous les mythes comme de tous les contes, c'est une sorte de quête intérieure, une quête psychique. C'est-à-dire, les héros, ils vont toujours à la recherche de quelque chose qui n'est pas de l'ordre du matériel, même si ça peut y ressembler, mais de quelque chose qu'il faut laver, qu'il faut acquérir. Je dis laver parce que je pense aux écuries d'Augias, par exemple, pour un des travaux d'Hercule. Voilà, donc dans ce dont il s'agit ici, je crois, en effet, c'est quelque chose autour du féminin. Les premiers travaux d'Hercule, les deux premiers travaux d'Hercule, en tout cas, mettent en scène quelque chose de sa puissance et de sa virilité. Ici, dans l'histoire avec la biche d'Erini, il y a quelque chose qui est, je crois, beaucoup plus de la nécessité, et c'est vrai, il me semble, pour nous-mêmes, d'intériorisation d'un féminin. Je précise que ce féminin est renvoyé aux émotions, aux affects, à la tendresse, à la capacité à entrer en relation, et que, bien évidemment, ça n'a rien à voir avec les hommes et les femmes. Ce féminin, il existe de façon tout à fait équivalente chez les hommes et chez les femmes.
Équivalente, mais c'est pas pour rien que une femme, c'est quand même plus féminin, a priori.
Voilà,
on est quand même d'accord.
Mais bien évidemment, sur le plan culturel, il a été largement valorisé. Toutes les contenus archétypiques masculins chez les hommes et tous les contenus archétypiques féminins chez les femmes.
D'autant plus à l'époque où ont été créés ces mythes, ou même ce conte du petit poussé au XVIe siècle. J'imagine que la phocratie était largement au pouvoir.
Tout à fait. Il en reste évidemment beaucoup de choses. En même temps, on voit bien que sur le plan culturel, ça évolue, que ce soit puisque vous en parliez, par exemple, l'évolution de la perception de l'enfant entre les contes de Perrault et les contes de Grimm. Il y a un siècle et demi qui se passe. Il n'y a pas la même perception. On voit bien qu'il y a une place qui a été donnée aux femmes, que ce soit avec les droits de vote il y a pas mal d'années, enfin juste après la Deuxième Guerre mondiale, avec les mouvements MeToo, je fais une histoire à accélérer ici. Et on voit bien, par exemple, que pour les femmes, maintenant, la figure idéale de l'homme, si je le dis en tant que, là aussi, image et symbole, c'est quand même beaucoup moins maintenant une figure avant tout extrêmement virile. Les femmes, elles demandent aux hommes d'être tendres, d'être doux, d'être attentifs, etc. Donc on voit des choses qui évoluent. Probablement, on est loin d'une sorte d'équilibre, il me semble, à l'intérieur de soi-même, entre ce masculin et ce féminin, chez les hommes et chez les femmes. Mais bien évidemment, il y a quelque chose là qui suit l'évolution du rapport à ce masculin et à ce féminin dans la société.
Je rajouterais comme caractéristique au féminin la spiritualité également. On voit que, par exemple, dans l'Église, je connais... Pour l'Église catholique, 80% des fidèles sont des femmes, par exemple.
Oui.
Mais c'est intéressant, je trouve, par rapport aux contes, parce que moi, ma théorie, je vous l'avais dit, docteur Dominique Michel, c'est que les contes ont été principalement racontés par des femmes pour des enfants, pour des filles. Moi, ma théorie, voilà, c'est devant la cheminée, c'est en tricotant, en filant de la laine que les histoires sont racontées. Ça se discute, évidemment, mais je les trouve profondément féminins, très souvent profondément féminins. En Occident, sûrement dans d'autres cultures, les contes peuvent être plus des contes d'initiation pour garçons. Mais je trouve qu'il y a énormément de contes d'initiation pour filles dans les contes de Grimm ou dans les contes de Charles Perrault.
Alors, il y a plein de choses qui me viennent. Au lieu de filles, je dirais du côté du féminin. Sur le plan des récits de contes, je n'ai pas assez de savoir là-dessus. J'aurais tendance à penser que pendant quand même très 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 longtemps, les conteurs ont été des hommes, dans ceux qui se déplaçaient de village en village. Mais bien évidemment, à l'intérieur de la famille nucléaire et à l'intérieur du village,
qui racontait des histoires,
c'est les femmes. En même temps, je crois qu'il y a eu toujours, de tout temps, des hommes qui ont raconté des contes. Moi,
évidemment,
dans ma famille, c'est mon grand-père, un de mes grands-pères qui racontait les histoires comme ça. La deuxième chose, c'est que je redirais, attention, peut-être pour moi en tout cas, à ne pas faire de superposition entre le spirituel d'un côté et l'intériorité. Hein, ce sont deux choses qui sont énormément croisées. Donc il me semble que dans ce féminin, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'accès à une intériorité, et c'est sûr que le féminin renvoie plus à l'intériorité, à l'introversion, quand le masculin est plus actif et plus dans l'extraversion et dans l'extériorité. Voilà. Donc j'aurais envie de dire, pendant très très longtemps, en effet, le féminin, il a été, pour des raisons culturelles, essentiellement porté par les femmes, voilà, et le masculin porté par les hommes, voilà, c'est pour ça qu'il y a ça, qu'il y a ce mot
de masculin. Ce qui ne choquera personne, évidemment.
Ce qui ne choquera personne, mais j'ai bien envie de proposer aux auditeurs de se dire qu'en fait, voilà, on le pense comme une espèce de évidence que les hommes doivent être masculins et que les femmes doivent être féminines. Eh ben non, il y a du masculin et du féminin chez les hommes comme chez les femmes.
Alors nous n'avons pas rappelé, docteur Dumnig-Michel, le temps passe, on est déjà à 6 minutes d'émission. En quoi le Petit Poucé, rapidement, était lui aussi, le conte du Petit Poucé, une quête de la recherche d'un équilibre entre masculin et féminin? Nous avons une figure féminine très controversée dans le Petit Poucé, enfin très malmenée en tout cas,
voilà.
Et un déséquilibre à la base.
Voilà, le premier rappel, dans la famille, dans la première famille, il n'y a que 6 garçons. Sous-entendu, bah, dans cette famille, il n'y a pas, alors je vais reprendre vos propos là justement, il n'y a pas de femme, c'est-à-dire il n'y a pas de féminin incarné par des filles. Voilà. Hein? Et puis ensuite, il va y avoir ce petit poussé. Et ce petit poussé dans cette quête intérieure, et je reprendrai volontiers d'ailleurs votre mot, cette quête spirituelle qui est portée par le conte du petit poussé, il incarne quelque chose de l'ordre d'une figure féminine, il me semble. Hein? Et dans la forêt, c'est-à-dire dans le parallèle au fond inconscient qu'il y a de cette famille, celle du bûcheron, voilà, qu'est-ce qu'il y a ? Eh ben, il y a bien un féminin, sauf qu'il est dans l'inconscient. Et qu'est-ce que va être son destin ? Eh ben, ça va être que le père inconscient ogre va tuer ses filles. Donc il y a, voilà, comme vous le dites, le destin est tragique. Et quant à la femme du bûcheron qu'on a vue au début, elle n'est pas très recommandable non plus. Hein. Et la femme de l'ogre, elle est aussi très, très, très ambivalente. Donc le petit poussé, il va... Et puis, dans la deuxième partie du conte, vous rappelez aussi, c'est un royaume dans lequel il y a un roi, mais pas de reine, et où le problème, c'est la relation entre les hommes et les femmes.
Et le petit poussé va créer du lien en portant des messages grâce à ses bottes magiques.
Voilà. Donc, il est du côté, en effet, d'un féminin qui fait du lien.
Docteur Demichel, revenons au mythe d'Héraclès. Il y a un autre épisode où Hercule, justement, part à la conquête du féminin, c'est celui de la reine Omphale.
Voilà, alors cet épisode est aussi intéressant à lire. Omphale, c'est une reine de Lydie. Et en fait, elle va retenir Héraclès prisonnier. Elle va jouer un petit peu avec lui. Elle en fait une sorte d'esclave. Et ce qui est aussi intéressant dans les propos ici, c'est qu'elle va le déguiser en une sorte de personnage féminin. Donc vous voyez bien là, il y a une sorte de figure masculin et féminin qui est complètement opposée, puisque la reine serait une sorte de figure décisionnelle, je dirais entre guillemets virile, et Héraclès, qui est pourtant le héros viril par excellence, lui, il est déguisé en femme. Donc on est là dans une sorte d'inversion de rôle, au moins, en tout cas, on va dire des rôles sociaux, par exemple. Hein. Et tout le monde sait que, par exemple, un homme qui est un petit peu trop féminin va vite être qualifié d'efféminé et donc va être jugé négativement. Une femme qui serait un petit peu trop masculine et sûre d'elle, elle va être vite qualifiée d'être un vrai mec. Et quand on dit « celle-là, c'est un vrai mec », c'est évidemment pas un compliment. Donc d'abord, il est esclave de la reine, Héraclès. Puis finalement, il y a quelque chose de l'ordre d'un équilibre que le couple retrouve. Et au fond, Héraclès va épouser Omphale et avoir avec elle des enfants.
Alors justement, pour conclure cette histoire de quête du féminin, qu'est-ce que leur apporte aussi bien au petit poussé et à Héraclès finalement, et peut-être à nous tous? Qu'est-ce que cela nous apporte, cette recherche du féminin quand on est un homme et l'inverse, évidemment ?
Ben, je vais reprendre un petit peu ce que vous aviez dit, peut-être en le disant un petit peu autrement. Je crois que pour Héraclès, il lui faut découvrir quelque chose de son intériorité, d'une espèce de force d'âme au-delà de sa légendaire virilité, on pourrait dire, et probablement accéder à quelque chose qui est radicalement opposé, à savoir sa dimension féminine archaïque, représentée ici par cette biche, c'est-à-dire un féminin sauvage encore, hein, qui n'est pas intériorisé. Alors ce féminin, on va rentrer après dans une sorte de cliché, c'est, il me semble, la sensibilité, la capacité à avoir des émotions, à les tenir, à les élaborer, donc à avoir des sentiments, cette capacité à avoir du lien, on pourrait dire l'intuition, on pourrait dire des tas de choses comme ça. En tout cas, dans l'équilibre, à l'intérieur de nous tous, qu'on soit un homme ou une femme, cet équilibre entre le masculin et le féminin est tout à fait important.
Ooh.
Alors si on se place à un niveau un petit peu plus psychique, c'est-à-dire plus intérieur, je crois qu'on pourrait se dire que ce conte pourrait être comme une sorte de rêve. Hein. On pourrait imaginer que, ou je pourrais imaginer qu'il y a un de mes patients qui vienne me raconter ce conte et qui me dise « ben voilà, j'ai fait un rêve, il y avait un bûcheron et puis il y avait sa femme et puis le couple veut abandonner ses enfants et puis l'histoire se déroule ». Donc je crois que l'émergence de cet enfant, et là j'ai envie d'introduire cette notion d'enfant sauveur, hein, l'émergence de cet enfant sauveur vient introduire du féminin. Alors on pourrait se dire, si cet enfant sauveur introduit du féminin, pourquoi au fond c'est pas une femme, hein, pourquoi c'est pas une fille, hein? Alors en même temps on a vu que les filles étaient présentes puisqu'elles sont dans la forêt. Elles ont été sacrifiées, violées, égorgées, on ne sait pas trop, par la partie sombre du bûcheron, hein, c'est-à-dire la figure de l'ogre. Ben, je crois qu'on pourrait très bien dire qu'au lieu de Petit Poussé, ce conte, il pourrait s'appeler La Petite Poussette.
Alors, qu'est-ce que ça changerait et comment se passerait l'histoire ?
Ben, je pense que l'histoire se passerait probablement de la même façon, mais peut-être pour nos...
Mais vous nous aviez dit que, excusez-moi, je vous coupe, mais que les bottes magiques étaient un symbole de virilité, alors.
Voilà, voilà. Non, les bottes magiques, elles sont un contenant. Elles sont un contenant. Sur le plan des formes, vous savez, les psychanalystes freudiens, ils adorent ce genre de choses. Dès que c'est un peu long et pointu, c'est toujours une image virile, sous-entendu un pénis ou un phallus sur le plan symbolique. Et dès que c'est creux, rond et que ça accueille quelque chose, c'est un contenu féminin.
C'est donc l'inverse.
Voilà, que ce soit un vagin, que ce soit un utérus, que ce soit une matrice, que ce soit un ventre, que ce soit un cœur maternel. Hein, on est toujours dans cette même symbolique, voilà, qui est au fond de la flèche, de l'arc et de la flèche et de la cible, de l'épée et de la coupe. Hein, vous voyez, il y a quelque chose qui pénètre et il y a quelque chose qui accueille. Et je dis bien que dans les deux cas, il y a une dimension active et une dimension passive, c'est-à-dire le féminin n'est pas simplement ce qui accueille passivement, mais c'est aussi ce qui accueille généreusement en se proposant à. Hein, donc il y a une dimension active dans les deux situations. Voilà, donc on pourrait très bien imaginer en effet que ce petit poussé soit une petite poussette, et il me semble que peut-être pour la lecture, ça serait peut-être plus facile d'entendre ça, de comprendre que finalement, dans cette famille initiale, eh bien, il n'y a que des garçons, c'est-à-dire au fond, si on l'entend symboliquement, il n'y a pas de féminin qui est là. D'ailleurs, la mère, pas beaucoup de cœur, hein, elle pense surtout à aller bouffer de la viande. Que le féminin, sur le plan de ce qui se passe dans l'inconscient, à savoir dans la forêt, il a été sacrifié compte tenu de la violence archétypique, archaïque de l'ogre qui prend les féminins comme des objets, hein, donc qui les pénètre avec son couteau sanglant et donc qui les tue. Donc ce petit poussé, je le verrais bien comme un personnage féminin qui serait la fille qui arrive, c'est-à-dire qu'elle viendrait, ce petit poussé viendrait être la fille qui incarne l'émergence d'un féminin qui manque dans la première famille.
Docteur Dominique Demichel, merci beaucoup pour cette analyse du conte du Petit Poussé en rapport avec le mythe d'Héraclès. Je vous propose de nous retrouver dans 15 jours afin de poursuivre ce cycle autour du Petit Poussé et nous aborderons la question du mal.
Merci, au revoir.